Bienvenue dans le podcast « Tout se transforme ». Je suis J.S. Klein, consultant auprès des entreprises sur les sujets liés à leur transformation. Dans ce podcast, je vous propose d'aborder toutes les thématiques de la transformation des entreprises, comme le digital, le management ou la RSE. Je serai accompagné d'experts dans ces domaines, mais aussi de professionnels ayant vécu la transformation. Pour m'aider à faire vivre ce podcast, prenez le temps de le partager et d'aller mettre des étoiles et des commentaires dans iTunes. C'est ce qui lui permettra d'être visible et accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires pour me proposer des idées de thématiques, par exemple. Allez, sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Très bonne écoute à tous. Selon une étude effectuée par l'éditeur Intuit, 40% des travailleurs américains sont des indépendants. Un chiffre en forte augmentation depuis plus de 10 ans. En France, on suit la même tendance. Eurostat estime à 930 000 le nombre de freelances, avec une augmentation de 33% en 6 ans. Et si ce chiffre augmente, c'est qu'il y a une vraie demande des entreprises pour ces profils. Pourquoi travailler avec des freelances? Quels sont les pour et les contre? Comment créer une collaboration efficace? Aujourd'hui, on vous dit tout sur le freelancing et comment il révolutionne le monde du travail. J'ai entendu il y a quelques années une étude qui disait que lorsqu'on dit start-up à une personne, elle pense innovation. Lorsqu'on dit freelance, elle pense précarité. Pourtant, les chiffres le montrent, de plus en plus d'individus choisissent de quitter le salariat pour opter pour le freelancing. Recherche de sens dans le travail, flexibilité de l'organisation, diversité des missions, les arguments ne manquent pas pour attirer les nouveaux freelances. Du côté des entreprises, on n'hésite plus aujourd'hui à faire appel à des talents en freelance, ce qui change profondément l'organisation. D'une entreprise monobloc, on arrive à des entreprises hybrides qui font vivre tout un écosystème autour d'elles. Le digital a largement accéléré cette transformation en permettant notamment la connexion directe entre freelance et entreprise par le biais de plateformes dédiées. Et ça tombe bien, car pour en parler aujourd'hui, je reçois Hugo Lassiège, CTO de Malte, l'une des plateformes les plus utilisées. Hugo, bonjour.
Bonjour.
Alors Hugo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous présenter ce que fait Malte, et puis après on rentrera dans le détail du sujet.
Donc effectivement, moi c'est Hugo Lassiège, je travaille sur Malte depuis 2012. On s'est rencontrés en 2012 pour former le produit, et même si on a sorti le produit qu'en 2013. J'ai travaillé auparavant dans pas mal de secteurs différents. J'ai travaillé dans le service, j'ai travaillé dans l'édition de logiciels. Alors quand je disais plein de secteurs, banque, finance, télécom, etc. J'ai également été freelance pendant plusieurs années. Donc évidemment, aujourd'hui j'ai une vision et du freelancing, et du monde du service, et du monde du produit. Donc c'est ce qui m'aide beaucoup à faire Malte.
Ce qui te permet d'avoir une vision très large sur le cœur d'activité de Malte. Ouais.
Et donc Malte, pour résumer, c'est une communauté de freelance, c'est une plateforme qui permet en fait de mettre en relation des entreprises avec des freelances. On travaille majoritairement avec des entreprises PME et grands groupes. Majoritairement, ça ne veut pas dire que c'est exclusif, mais c'est quand même majoritairement ça. Et sur les freelances, c'est essentiellement les freelances du numérique. Autrement dit, c'est des freelances développeurs, designers, marketing, communication, etc.
Ok, vraiment ce qui touche à l'activité du digital pour les entreprises. On va attaquer la première partie. En fait, ce que je voulais faire sur cette première partie, c'est déjà essayer d'y voir plus clair sur ce qu'on appelle un freelance, ce qu'on n'appelle pas un freelance. Et quand on a préparé l'épisode, on s'est aperçu que c'est pas très clair, puisque selon les médias, selon à qui on parle, on va inclure ou exclure certaines professions. Ce que j'ai vu de mon côté, c'est que on avait plutôt les métiers qui ont des relations contractuelles avec les clients, que ça excluait par exemple toutes les professions libérales. Par contre, toi, tu me disais qu'il y a d'autres façons de voir les choses et côté Malte, vous pouvez couvrir une autre vision, même si vous êtes très axé digital.
C'est-à-dire que le mot freelance en lui-même, il est, en fait, je ne sais pas de quand il date, mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre essentiellement les métiers du numérique aujourd'hui dedans. Mais globalement, c'est quelqu'un qui possède son outil de travail, c'est quelqu'un qui est maître de son entreprise. Donc effectivement, on pourrait rentrer plein de choses. Il y a les professions réglementées, professions libérales, etc. Maintenant, on n'a jamais entendu dire quelqu'un, il est docteur freelance, quoi. C'est un peu bizarre de dire ça. Donc en principe, quand on parle de freelance, c'est vrai qu'on a tendance à exclure les professions type agricole, artisan, professions libérales, certaines professions qui sont libérales aussi mais qui sont réglementées, comptables, etc. Ce qui fait que forcément les chiffres qu'on va retrouver un peu partout, ils peuvent être assez variables suivant ce qu'on compte en fait.
Parce que Moi, j'ai vu des chiffres de la Commission européenne de 2019 qui disaient qu'il y avait en France 32,6 millions de freelances. Je trouvais ça énorme. Et puis, les chiffres d'Eurostat que j'ai énoncés en intro, 930 000 freelances en France. Donc, effectivement, ils ne doivent pas compter les mêmes légumes à ce niveau-là. Il y en a qui comptent les choux et les carottes et d'autres qui comptent que les choux. Côté Malte, vous, qu'est-ce que vous avez comme chiffre aujourd'hui à date?
Nous, nos chiffres, ils doivent être soit une version actualisée, hein, je pense, de ceux d'Eurostat, puisqu'on est à 1 028 000. Ouais. Donc on n'est pas très loin, ce qui représente une évolution de 92% depuis 2009. Voilà, et si on reprend encore depuis 2000, c'est encore plus important, quoi.
Ouais, 92% en 10 ans à peu près, c'est quand même énorme. On va essayer de s'intéresser à ce qui a provoqué cette évolution, parce que c'est bien de voir qu'il y a une croissance. Donc ce que je disais en intro, c'est que s'il y a cette croissance et qu'il y a une demande en face, ces freelances, ils ont du boulot, donc il y a une vraie demande des entreprises. Qu'est-ce qui a amené à l'émergence aussi forte du métier de freelance ?
Il y a deux choses. Effectivement, il y a le côté individuel déjà. Il y a le fait que les personnes, elles ont certaines aspirations sur le fait de, si c'est pas trouver du sens, en tout cas, c'est le fait d'être un peu plus autonome sur sa façon de gérer son temps. Et ça, ça donne du sens finalement à son boulot. Donc, c'est la façon de se former, c'est la façon de choisir ses emplois ou éventuellement ses lieux de travail. Donc, il y a énormément de choses qui vont être plus de l'aspiration individuelle. Et donc, on pourrait considérer que c'est générationnel. Maintenant, on voit en réalité que quand on regarde les âges moyens, c'est peut-être pas aussi marqué que de dire c'est la génération Y, etc. En fait, non, c'est pas vrai. Nous, on a un chiffre qui nous permet de dire que sur notre base de freelance, en tout cas, la moyenne d'âge en France, elle est plutôt de 37 ans.
Ouais. Moi, je reste persuadé que sur ces questions générationnelles, c'est un symptôme. C'est-à-dire qu'on a une génération qui souhaite très fortement trouver du sens dans son travail, mais finalement, les générations précédentes, c'est pas qu'elles cherchaient pas de sens. Elles, en voyant que c'est en train de changer, elles sont en train d'aller dans le même sens. Et finalement, c'est un besoin humain de trouver du sens. C'est juste que les dernières générations l'ont exprimé plus fortement et qu'elles embarquent avec elles les générations précédentes. C'est la façon dont moi je le ressens.
C'est peut-être aussi les entreprises qui ont évolué. C'est peut-être, je pense, aussi le fait que on parle souvent de révolution numérique depuis maintenant pas mal d'années, hein, mais ça a facilité aussi les interactions entre entreprises et individuels. Donc forcément, c'est un ensemble de choses. Et côté entreprise, il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a le fait que justement, les transformations de ces 20, 30, 40 dernières années, elles font qu'il faut être beaucoup plus rapide en fait sur les secteurs sur lesquels on travaille. On a vu des pans entiers d'industrie disparaître parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter face à la concurrence qui s'est numérisée. Alors, il y a des secteurs entiers aujourd'hui qui sont en danger. Alors il y a des luttes de tous les côtés légaux, etc. On a toujours en tête, par exemple, l'histoire des taxis et d'Uber, mais en fait, il y a plein d'autres secteurs sur lesquels il y a toujours un peu ces petits combats. Les entreprises, elles ont compris qu'en fait, aujourd'hui, il faut être réactif. Pour être réactif, il faut avoir des expertises qu'on a des poivres à avoir en interne et qu'il faut donc aller chercher ailleurs. Ça peut être ça, ça peut être également le fait de pouvoir lancer des initiatives à grande échelle qui vont être ponctuelles, qui vont peut-être s'arrêter à un instant T. Tout ça, ça fait que ce besoin de réactivité, de vitesse sur les marchés, eh bien, le recours au freelance, il paraît assez naturel.
Ouais, finalement, on a un cocktail qui s'est mis en place avec, d'un côté, depuis la crise des subprimes en 2008, cette accélération du côté numérique et en parallèle réellement des changements sociétaux forts. Et c'est ce qui a amené une génération de personnes à aller plus facilement vers le freelancing. De l'autre côté, on a des entreprises qui ont plus de besoins sur ce type de profil et finalement l'outil numérique au milieu qui fait en sorte de les mettre en relation. Quand on a mis tout ça dans le shaker, ça permet de voir ces succès qu'on constate aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ouais. J'utilisais, d'ailleurs c'est marrant parce que j'utilisais la même expression, c'était en 2012, j'avais fait en 2013, je sais plus, un human talk sur le sujet où je parlais un peu de tout ça. Et à l'époque, il y avait une revue qui s'appelait Management et qui avait publié un truc qui parlait des entreprises hub. C'était un peu les entreprises de demain. À ce moment-là, on parlait de ça. C'était déjà il y a quasiment 10 ans. Et les entreprises hub, c'était en fait un cœur d'entreprise qui correspondait vraiment à la mission de l'entreprise et qui ensuite était complété par des expertises core ou en tout cas des individus qui pouvaient venir d'ailleurs et justement qui permettaient à l'entreprise de grandir sur un cas particulier. Donc on était vraiment déjà dans des entreprises hybrides qui étaient envisagées à ce moment-là, et je pense même que ça date d'avant, hein, mais en tout cas cette prise de conscience, c'était déjà le cas il y a plusieurs années.
Ouais, ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de la base de clients que vous allez avoir sur Malte, on pourrait penser que le freelancing, c'est très axé sur les métiers du numérique, c'est très axé autour des startups, mais finalement tu disais qu'il y a une grosse partie de vos clients, c'est le CAC 40, donc des entreprises très installées. utilisent régulièrement des freelances, donc ce n'est pas réservé à des métiers particuliers. Est-ce que sur ces dernières années, tu as vu que ça a changé là-dessus? C'est-à-dire que sur des entreprises qui étaient très technologiques, on est allé plus sur des entreprises traditionnelles, comment ça a évolué?
Il y a pas mal de choses qui ont changé, oui. La perception du freelancing a changé. Moi, quand j'ai commencé en tant que freelance, on avait tendance à se lancer en freelance plus tard. On avait tendance à se dire, je ne peux être freelance, enfin, je ne me sentirai crédible en tant que freelance qu'après X années d'expérience. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent directement après l'école en tant que freelance.
Ouais, qui passent même pas par la case salariale.
Exactement. Donc ça, c'est un gros changement. Ça, franchement, je le vois, ça saute aux yeux là sur les 10 dernières années.
Et c'est une volonté de ces personnes-là d'aller directement dans le freelancing ou c'est parce qu'il n'y a pas de boulot à côté en salariale?
Non, c'est une vraie volonté. Là-dessus, nous, on s'appuie aussi sur le fait qu'on va régulièrement faire des sondages un peu auprès des personnes et on voit que c'est à plus de... Alors ça dépend des métiers aussi, hein. Mais à plus de 80%, c'est un choix. Et c'est des personnes qui disent, surtout dans l'IT, encore plus, à plus de 96%, ils ne reviendront pas salariés.
Mais parce
pour
que
certains,
ça,
ils connaissent même pas.
Et là, on est sur un métier qui est en tension. Donc, c'est-à-dire que, je vais caricaturer, mais c'est des métiers où tu es développeur, tu as 5 ans d'expérience, tu te mets sur Malte, le lendemain matin, tu as du boulot.
C'est sûr que, enfin que ce soit sur Malte ou enfin de façon générale, c'est quand même, oui, c'est comme tu dis, c'est des métiers qui sont très pénuriques, donc oui, c'est assez simple de trouver des missions.
Est-ce que ça fonctionne simple de la même manière pour d'autres métiers, je sais pas, graphiste, rédacteur, est-ce que on ressent que ça fonctionne aussi bien?
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va jouer, c'est la typologie de mission. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des missions longues pour les personnes qui font du dev, alors que ce sont plutôt des missions courtes pour les graphistes et les rédacteurs. Ça veut dire que l'effort commercial pour aller chercher des clients, il est beaucoup plus important quand même pour un graphiste et pour un rédacteur. Et donc, le temps passé en prospection commerciale, il diffère largement.
Ouais, c'est ça.
Donc, non, on ne peut pas dire que ce soit aussi simple pour les graphistes et les rédacteurs, parce qu'en fait, ils ont un effort commercial quand même plus important à faire qu'un développeur.
Quels autres changements tu as pu voir sur ces dernières années de ton côté?
Là, on a abordé le côté freelance, enfin, c'est-à-dire les personnes qui se lancent en freelance. Maintenant, côté entreprise, il y a aussi un énorme changement, c'est qu'à un certain moment, soit ils disaient ne pas prendre de freelance, soit ils ont mis des barrières sur le fait d'utiliser des freelances. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le freelancing, c'est quelque chose de très, très acté dans les entreprises. Il y a deux choses que je vois qui ont changé. Il y a des appels d'offres spécifiques pour les plateformes de freelance, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, deuxième chose aussi qui a changé, c'est disait officiellement, on n'utilise pas de freelance. Maintenant, ce qui était faux hein, dans les faits, parce que...
Passait par des intermédiaires.
En fait, ils passaient par des intermédiaires, mais ces intermédiaires ne leur disaient pas forcément. Moi, je me rappelle très bien, en 2010, on m'avait proposé plusieurs missions en tant que freelance, et par plusieurs boîtes. Hein. Donc, c'est pas un cas particulier. C'est pas plusieurs boîtes qui m'avaient fait ça. Ils m'avaient dit, écoute, par contre, il faut pas que tu dises que tu es freelance, parce que voilà, c'est pas bien vu, machin. Puis on m'avait sorti un peu plein de poncifs sur les freelances. Je me disais, bon, ok, c'est un peu bizarre, mais enfin, pourquoi pas. Et en plus, pour certaines boîtes, il va falloir qu'on produise le fait que tu es vraiment chez nous. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas te salarier chez nous. On va produire une déclaration unique d'embauche. Et puis, pas grave, tu démissionnes dans la foulée et tu reprends ton statut de freelance. Bon, là, j'avais dit non. Enfin, ça devenait vraiment du n'importe quoi.
Ouais,
et ça, c'est un truc que tu ne retrouves plus aujourd'hui. Enfin, j'espère.
Ce que j'avais vu, c'est qu'en agence, quand on travaillait avec des clients il y a une dizaine d'années, il fallait que toutes les personnes qui bossaient soient salariées de l'agence. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était rassurant et c'était mal vu le fait de faire appel à des freelances. Et aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que les clients, compte tenu de la diversité des métiers qui existent dans les métiers du digital, n'arrivent pas à comprendre que tu internalises tout et que tu ne fasses pas appel à des freelances à côté. C'est plutôt un gage de qualité d'avoir un hub de freelance, un pool de freelance avec qui tu travailles sur le long terme et qui te permet d'assurer l'excellence, c'est de délivrer dans les délais. Je pense que là, il y a vraiment eu des inversions de mentalité très fortes à ce niveau-là.
Oui, oui. Moi, d'ailleurs, des boîtes que je... Enfin, ce qu'on appelle des ESN, qui, à l'époque, me disaient, voilà, on bosse pas avec des freelances. Je me rappelle, j'avais été les voir parce que je les trouvais très bien. C'est des boîtes qui ont pignon sur rue, qui ont une bonne politique à la veille, etc. Donc, j'avais été les voir. Ils m'avaient dit, non, on bosse pas avec des freelances. Et voilà, sur les dernières années, ça a changé. Aujourd'hui, ils bossent avec des freelances. C'est... Comme tu dis, ça a changé à tous les niveaux. Enfin, ça a changé au niveau ce qu'on appellera les clients finaux. Hein, donc et puis, ça a changé au niveau des cabinets de conseil également. Et
on le voit sur les cabinets de recrutement qui, aujourd'hui, non seulement te permettent de faire du sourcing pour embaucher, mais te permettent de faire du sourcing de très forts talents freelance. Donc, ils ont ouvert ce type de service également. qu'on sent bien qu'il y a un besoin derrière. Ce qui va nous amener sur la deuxième partie autour des idées reçues qu'on va avoir sur les freelances. Alors des idées reçues qui finalement ont peut-être changé avec le temps. Et là, on va jouer à un jeu. Je vais te dire des choses que moi, j'ai lues sur le web. Et puis, tu vas me répondre un petit peu, toi, ce que tu as pu constater, soit par Malte, soit personnellement, dans ton activité de freelance. J'en ai pris 4 ou 5. Le premier, c'est « Les freelances sont instables et peuvent vous lâcher à n'importe quel moment ».
Oui, effectivement, ça là, je l'ai souvent entendu. En soi, aujourd'hui, un freelance, quand il rejoint une entreprise, il va le rejoindre dans le cadre de... La prestation, c'est pas nouveau en France. Enfin, je veux dire, on a toujours fait de la prestation. Et donc, qu'est-ce qu'on compare en fait ? Est-ce qu'on compare quelqu'un qui fait de la prestation ou est-ce qu'on compare quelqu'un qui est salarié ? Et d'ailleurs, même sur quelqu'un qui est salarié, est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit quelqu'un qui soit marié toute sa vie avec une entreprise ? Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Enfin, il n'y a plus réellement ce sentiment de je vais faire 15 ans, 20 ans, 30 ans dans la même boîte.
Ça, je pense qu'en fait, quand on a ce type de retour, c'est juste la concrétisation d'un changement profond dans le monde du travail, dans ce qu'attendent les travailleurs au sens large, donc salariés, non salariés, et que finalement, en fait, cette crainte se reporte sur les freelances parce qu'ils ont fait ce choix d'être très libres dans leur contractualisation. Les gens qui pensent ça ont l'impression de garder leurs salariés, alors que finalement, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans le digital, quelqu'un qui reste 3 ans, il est déjà là pour longtemps. Donc, c'est pas tout à fait réel, et j'ai même l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un freelance qui a une relation qui se passe bien avec un de ses clients, finalement, a peu d'intérêt à le lâcher parce que c'est du temps de commerce en moins à faire et si ça se passe bien, il peut avancer. Là où un salarié, puisqu'il va bosser en permanence que pour cette boîte-là, va avoir plus tendance à se dire « tiens, bah, si j'allais voir ailleurs ».
Je ne sais pas si c'est aussi marqué. J'espère quand même que les personnes qui rentrent en salarié ont des temps plus longs sur Paris et quand on discute avec pas mal d'autres boîtes, on a tendance à dire que voilà, quelqu'un qui reste au-delà de 2-3 ans, enfin c'est pas qu'il va partir, c'est plutôt on se dit, on sait qu'il est en risque à ce moment-là. C'est à ce moment-là en fait qu'il faut faire un peu plus attention à tous les beaucoup de signes extérieurs. En fait. Donc pour un freelance, il y a plein de freelances qui sont en mission longue et qu'il faut faire 2-3 ans. En fait, on se pose un peu les mêmes questions. Je pense que ce qui cristallise peut-être un petit peu ce genre de choses-là, c'est. On se dit, voilà, ils ont des délais de préavis moins longs, etc. Mais en soi, on s'en fout. Enfin, que quelqu'un parte en 1 mois, en 3 mois, en réalité, ça ne change rien. Enfin, l'équation, enfin, si la personne elle n'est pas satisfaite... En fait, un freelance, il va partir pour les mêmes raisons qu'un salarié. C'est-à-dire, est-ce que je suis en phase avec la mission de l'entreprise ? Est-ce que je suis en phase avec mon manager ? Est-ce que je suis en phase avec ma rémunération ? Enfin,
bah là, il n'y a pas de question de management, normalement. Pas censé y avoir de question de management avec les freelances. Mais en tout cas... On parle en phase avec le cadre et les conditions qui ont été fixées.
Ouais. Alors, oui, je reviens sur le management. Effectivement, on ne parlera pas de quelqu'un qui va gérer, par exemple, son évolution professionnelle, ses congés, etc. Par contre, il y a bien du management au sens...
fonctionnel.
Fonctionnel. Il y a la gestion de projet, il y a je dirais, une méthodologie de travail, etc. Donc ça va jouer quand même.
Oui, ce n'est pas le management humain, c'est la façon dont les projets sont réalisés, la méthodo, l'organisation, etc. Ouais. Deuxième idée reçue, les freelances ne savent pas travailler en équipe, ils sont solitaires.
Ouais, c'est un sacré poncif quand même. Non, bah là, pour le coup, c'est compliqué de dire quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça me paraît tellement absurde.
Je l'ai lu dans au moins 3 études que j'ai trouvées sur le web, ou 3 articles, qui faisaient les idées reçues sur les freelances, et ça sortait souvent en premier.
Ah, c'est amusant. En fait, il y a énormément aujourd'hui de boîtes qui bossent avec... Enfin, là, je parle des grands groupes. Hein. On va regarder dans les bureaux aujourd'hui, il y a 80-90% de prestations. Et là, je parle évidemment pas que freelance. Hein. Je parle freelance plus prestations type ESN. Ces personnes-là, elles ont l'habitude de bosser toujours en groupe. Ce sont les personnes aujourd'hui qui délivrent les projets sur la majorité des grandes boîtes.
Je pense que la réalité, c'est qu'il y a une petite partie des freelances qui, effectivement, ont trouvé leur équilibre dans le fait de bosser à distance, en solitaire, et ça se passe très bien pour eux comme ça. Et que comme d'habitude, on voit cette petite partie qui sort du cadre. Tu sais, on a l'habitude de voir les entreprises avec le côté très team building. Et là, on se dit, il y a des gens qui ont envie de bosser seuls. Et finalement, on en a fait une généralité sur le freelancing. Mais finalement, c'est une toute petite partie.
Ouais, et puis en plus, non seulement c'est vraiment une... Enfin, je ne sais pas si c'est en termes de chiffres, hein, mais oui, je pense que c'est une minorité. Mais en plus, aujourd'hui, de toute façon, même les salariés, et là, on le voit avec la crise actuelle, il y a une grosse adhésion, en fait, par exemple, là, tu parlais du remote, il y a une grosse adhésion au remote. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont du mal à revenir à ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, je dirais que si on prend cet angle-là d'analyse, Je trouve que c'est un peu tronqué parce qu'en fait, c'est le cas en gros de tous les individus aujourd'hui dans l'entreprise. Alors, on n'est pas tous égaux devant le télétravail et devant sa capacité à en faire, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec spécifiquement le freelancing.
Mais ce que ça montre, c'est que ce qui s'est passé sur les deux confinements de 2020, c'est que finalement, ce n'est pas les freelances qui sont solitaires et qui ont envie d'avoir du temps pour eux pour bosser à distance et peut-être un peu s'éloigner de l'équipe ponctuellement pour reprendre du souffle, c'est que tout le monde a envie de ça, mais que ce n'était pas complètement possible pour les salariés aujourd'hui, et qu'en fait, il y a une vraie aspiration à le faire, en tout cas pour un certain nombre de personnes.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est plus global. Mais dans tous les cas, de toute façon, quand on rentre chez un client en tant que freelance, moi, j'ai bossé pas mal d'années en tant que freelance, on se plie au lieu de travail, par exemple. Enfin, c'est pas parce que je suis freelance que je bosse à distance. Il y a souvent ce cliché, en fait. J'entends souvent ce cliché de freelance égale quelqu'un qui bosse depuis son canapé.
C'est vrai.
Absolument pas. Je dis pas qu'il y en a pas. Mais en fait, non. Un freelance, il bosse chez le client parce que le client, justement, il a une équipe à son bureau et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, non, ce cliché, il est tenace. On imagine même des personnes qui bossent à l'autre bout du monde sur une île, etc.
Mais il en existe, mais encore une fois, c'est très minoritaire.
C'est tellement minoritaire, oui.
Et je pense que si tu prends un développeur, par exemple, et que tu veux faire ça, tu as intérêt à être sacrément bon parce que tu as le décalage horaire, parce que tu as pas mal de choses. Donc pour arriver à en vivre, ça veut dire que tu es une star, quoi. Tu étais vraiment très bon.
Sur la totalité des freelances qui bossent sur Malte en France, il y en a plus de 50% qui bossent en région parisienne. Et on adresse toute la France, hein. On bosse dans les autres villes. Si on regarde la totalité des freelances sur Malte en Allemagne, il y en a 74% qui bossent en Bavière et en Ruhr. Donc bon, je pense qu'on est plus dans des gens qui sont proches de leur entreprise, enfin, ils sont proches des bassins économiques, quoi, en gros, que des personnes qui bossent depuis je ne sais où.
Ouais, c'est ça. Alors, le troisième, un freelance coûte plus cher qu'un salarié. Celui-là, je l'aime beaucoup.
Celui-là, ça dépend en fait comment on regarde. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un monde de choses qui vont jouer. Bon, déjà, qu'est-ce que tu comptes dans le coût du salarié, déjà? Et puis, en fait, le freelance, il a d'autres choses qu'il apporte. Tu parlais de souplesse tout à l'heure. Oui, tu es capable de lancer un projet et puis de l'arrêter un certain temps. En fait, ça, c'est quelque chose de ponctuel dans ton entreprise. Ou alors, ça va être, je sais pas, un remplacement de quelqu'un pour une période donnée. Ça va être un besoin d'expertise, de formation, etc. C'est des choses que, de toute façon, si tu devais internaliser, si tu devais faire monter des gens en compétences chez toi, entre la formation, etc. Soit si tu devais internaliser des gens pour finalement te dire, bah, en fait, non, je dois m'en séparer plus tard. Bah, en fait, dans tous ces cas-là, il y a aussi un coût. Bon, après, moi, je regarde aussi, par exemple, sur la région parisienne, quand je vois aujourd'hui les salaires qui se pratiquent en région parisienne sur certains postes, l'écart si on regarde vraiment le calcul le plus basique, hein, qui soit avec un TJM, non, aujourd'hui, il est extrêmement réduit.
Ce que j'avais l'habitude de faire pour comparer ce qui est comparable. Effectivement, quand tu prends un salarié, déjà, tu as tout son coût de recrutement, tu as son coût de formation. Donc ça, c'est ta première base. Ensuite, sur le côté salaire en lui-même, tu as effectivement le salaire chargé, donc charge salariale, charge patronale. Derrière, il faut calculer le taux de productivité, parce que quand tu prends un freelance, la plupart du temps, tu vas payer pour du 100% productif, c'est-à-dire qu'il va te facturer le temps qu'il passe réellement à produire pour toi. Quand tu as un salarié, tu payes sa journée. C'est-à-dire que s'il prend trois pauses, qu'il bavarde avec les autres, etc., ce qui est normal, hein, dans la vie d'une entreprise, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais en réalité, 80% de productivité, c'est déjà très bien pour un salarié. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, pour ne pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, plus, c'est en général plutôt mauvais signe. Mais il faut compter, du coup, ce temps productif. Et derrière, tu as les coûts indirects, c'est-à-dire que tu as un coût de management, tu as un coût de RH, tu as d'autres coûts qui viennent s'additionner là-dessus. Si tu fais la totalité par rapport au coût d'un freelance, la plupart du temps, tu t'aperçois que tu es plutôt à l'équilibre, voire en faveur du freelance. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut prendre que des freelances, parce que surtout pas. C'est-à-dire, à un moment, tu as une culture d'entreprise, tu as besoin de créer une cohésion d'équipe. Mais c'est, pour moi, ce poncif-là, il faut vraiment additionner les bonnes choses les unes à côté des autres et pas regarder juste le coût journée, parce que là, effectivement, ça n'a pas de sens.
Oui, tout à fait. Pour l'anecdote, donc avant Malte, j'avais créé une autre boîte qui s'appelle Lateral Souths. Qui est toujours, hein, c'est une boîte qui existe encore, qui est donc un regroupement de personnes. On s'était dit, voilà, on va faire, c'était avant qu'on parle d'entreprise libérée, mais en tout cas, on va faire une entreprise faite par des développeurs pour des développeurs.
Une sorte de collectif, mais monté en forme de d'entreprise.
Ouais. Exactement. Ouais. Donc, on avait créé ça, et dedans, il y avait, en fait, on laissait le choix salariat ou freelance. En fait, les gens, quand ils rentraient dedans, ils disaient, bah, moi, je suis l'un ou l'autre. Alors, la seule chose, c'est qu'ils pouvaient prendre des parts, dans tous les cas, dans la boîte. Donc un peu comme une scope, quoi, finalement. Moi, je considérais que c'était un peu un détail d'implémentation. Mais à la fin, l'argent que l'entreprise payait pour l'un ou pour l'autre était le même.
Ouais.
Simplement, il était ventilé différemment parce qu'effectivement, il y a des questions de charges sociales, il y a des questions d'autres choses. Mais à la fin, c'était le même.
C'est ça. Le point suivant, c'est le freelance, c'est un bouche-trou de l'entreprise pour les tâches secondaires. Alors là, je pense que tu peux y aller sur les types de profils que vous avez sur Malte. Je ne suis pas sûr que ce soit des missions secondaires.
Ah non, il y a tout. Enfin, je veux dire, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises, je pense que si on va dans leur bureau aujourd'hui, il y a 80-90% de prestataires, qu'ils soient freelance ou agence ou SN. Et c'est pas du tout des tâches secondaires, c'est les tâches primaires de l'entreprise.
Déjà, définir tâches primaires et secondaires pour l'entreprise, oui. Pour moi, déjà, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un bosse pour l'entreprise, c'est qu'il a du sens à bosser pour l'entreprise. Donc, primaire ou secondaire, c'est déjà moyen. Mais, oui.
Oui, non, je suis d'accord. Mais en tout cas, je dis pas, tu peux avoir des personnes qui sont des fois embauchées, enfin recrutées en tant que freelance parce qu'il y a une personne qui est absente sur un souci de maladie, etc. Enfin, là, on parle de cas particuliers quand même. Donc, la majorité du temps, on ne parle pas de personnes qui sont là pour combler les trous. On parle d'expertise qui vont être amenées dans l'entreprise parce qu'à un instant T, on ne l'a pas. Soit formé, soit recruté, c'est compliqué. On va avoir des personnes qui vont être là pour faire du projet sur lequel on a besoin d'une force de frappe qu'on n'a pas en interne, et le projet potentiellement il est sans doute intéressant et important pour l'entreprise. Donc non,
c'est pas vrai. Je ne sais pas si ça a été vrai un jour, et je ne sais pas d'où vient cette vision, ou peut-être de certaines entreprises qui effectivement le font que dans ce cas-là parce qu'elles ont peur d'engager les freelances sur, on va dire, leur core business.
Ouais, ou peut-être que c'est des personnes qui, quand ils pensent freelance, ils pensent essentiellement à certains jobs dans l'entreprise qu'ils peuvent déléguer totalement, du genre, je sais pas moi, la maîtrise de l'accueil, des choses comme ça. Peut-être que, tu vois, je me dis, c'est éventuellement comme ça qu'ils réfléchissent.
Et le dernier, les freelances ne sont pas engagés autant qu'un salarié.
Alors, encore une fois, est-ce qu'on compare d'ailleurs un salarié qui est prestataire chez soi ou un salarié qui est vraiment en interne? Est-ce que l'engagement, il se joue au type de contrat qu'on a avec une entreprise? J'ai un gros doute. Je pense que l'engagement, il est lié à plein de choses. En tant que freelance, j'ai été engagé pendant très longtemps avec certaines entreprises parce que je trouvais très intéressant ce que je faisais et j'appréciais aussi l'environnement de travail, la méthodologie de travail, etc. Non, l'engagement, il n'est pas lié au fait d'être freelance ou pas.
Mais je pense que là encore, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans le salariat, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'engagement des collaborateurs aujourd'hui dans le salariat, du fait qu'ils soient engagés ou désengagés. Il y a beaucoup de débats autour des questions de génération Y, Z, etc. Mais en fait, le vrai point, c'est le sens qu'a le travail en lui-même par rapport à soi. Et que tu sois salarié ou que tu sois freelance, finalement, si tu ne trouves pas de sens dans ce que tu fais, évidemment que tu n'es pas engagé dans ce que tu fais, mais c'est valable pour tout le monde dans la vie de tous les jours. Si ta vie ne t'intéresse pas, tu n'as pas envie de la vivre. Donc, ce n'est pas une question d'être freelance ou pas, à mon avis, mais c'est plus palpable sur le côté freelance parce qu'effectivement, un freelance qui, si la mission dans laquelle il travaille n'a pas de sens pour lui, peut très bien, très rapidement, dire « écoutez, je passe à autre chose ». Et il n'a pas de scrupule à le faire parce que c'est son business, c'est son propre business. Et s'il l'a monté, si c'est monté en freelance, c'est pour que son business lui apporte de l'épanouissement et du plaisir. Ce n'est pas pour, justement, se lever le matin en pleurant.
Ah, ouais, si on fait une petite digression là-dessus, il y a eu pas mal d'articles, je pense que tu les as vus passer, sur ce qu'on appelle les bullshit jobs, le bore-out, des gens qui s'ennuient parce qu'ils ne trouvent pas de sens à leur truc, à leur boulot. Et je pense qu'il y a une grosse différence entre un salarié et un freelance dans ce genre de cas-là. C'est que le freelance, il est extrêmement conscient du risque que ça implique pour lui. Un risque professionnel, alors je ne parle même pas des risques physiques, mentaux, etc., mais un risque professionnel, c'est-à-dire que c'est le fait de dire, à un moment donné, l'entreprise potentiellement va arrêter de bosser avec moi, il va falloir que je me remette sur le marché du travail parce que c'est mon boulot. Hein, en tant que freelance, je dois régulièrement trouver des clients. Comment est-ce que je vais valoriser ce que je suis en train de faire? Le free, il est beaucoup plus conscient parce que, en fait, le salarié, artificiellement, il pense qu'il a un mariage avec une entreprise. Certains salariés pensent comme ça, en fait, ils sont mariés. Le jour où ils se retrouvent à devoir rechercher autre chose, ils se rendent compte à ce moment-là que, oula, c'est compliqué parce qu'ils ont capitalisé sur une expérience qui n'est pas hyper valorisante après sur le recrutement. Quoi.
Mais je pense que ça, c'est impensif. Le fait que les salariés ou les patrons ou les entreprises pensent qu'elles sont mariées, déjà, là, il y a un biais qui est nocif pour tout le monde. Parce que c'est un contrat de travail, ça n'est pas un contrat de mariage.
Ah, totalement, oui. Totalement, mais je pense qu'en fait, il y a... Tu sais, on parle souvent d'aversion au risque ou Voilà, et je pense qu'il y a une certaine... Il y a beaucoup de gens que je connais aussi qui ont une certaine aversion au risque, et je peux très bien comprendre. Il faut qu'ils aient des dossiers en 4 exemplaires sur absolument tous les éléments pour se dire « tiens, je vais me lancer ». En tout cas, je vais changer de choses, je vais changer de métier, je vais changer de... Alors que le freelance, en principe, il a déjà démontré qu'il n'avait pas cette aversion au risque. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'en prendre. Donc c'est quelqu'un qui prendra une décision s'il voit qu'effectivement, ça ne lui mène nulle part.
Oui, c'est ça. Il est plus en main par rapport à son business et comment il veut le faire avancer, ouais. On a fait le tour un petit peu des idées reçues. Sur la troisième partie, je voulais aborder le travail avec des freelances avec deux aspects. Le premier étant, dans quel cas, en tant qu'entreprise, on va faire appel à des freelances et dans quel cas, il vaut mieux essayer de rester en interne. Alors, je vais te dire sur le premier cas ce que moi, j'ai vécu, ce que j'ai fait. Le but, c'est que tu me dises un petit peu, toi, ce que tu as pu observer ou vivre de ton côté. Pour moi, déjà, sur une entreprise, le fait de faire appel à des freelances, c'est un moyen de variabiliser la masse salariale. On sait qu'une entreprise a une activité qui va être variable. Elle peut avoir des pics, elle peut avoir des creux. Et sa masse salariale, par contre, elle est fixe. C'est une donnée qui n'évolue pas dans le temps. Le fait de faire appel à des freelances, ça lui permet plus ou moins de s'adapter à son activité et donc d'éviter d'avoir des pics de charge à des moments qu'elle n'est pas en capacité de produire, donc éventuellement d'avoir du retard vis-à-vis de ses clients, ou des moments de creux où elle va continuer à payer les salaires plein pot et finalement en face, ça marche, se mange parce qu'elle n'a pas un taux de productivité à fond. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est cette capacité à aller trouver des expertises, des profils vraiment experts dans certains domaines qu'elle aura du mal à avoir en salarié. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a un certain nombre, les très gros talents ont tendance à se mettre en freelancing parce qu'ils n'ont aucun problème à le faire et à vivre de ça. Tu en as parlé plusieurs fois, il y a le fait d'avoir des besoins ponctuels. J'ai besoin de quelqu'un qui va faire une rédaction d'un article, j'ai besoin de quelqu'un qui va travailler sur de la communication, du graphisme pour quelque chose. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est intéressant de faire appel à du freelance pour tout ce qui n'est pas le cœur de métier de l'entreprise. Donc, sur les besoins ponctuels, c'est vraiment des choses où tu vas avoir besoin d'un ou deux jours dans le mois ou de quelques jours à l'année et tu n'as aucun intérêt à aller faire une embauche là-dessus. Qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, de ton côté, sur dans quel cas tu dois faire appel à des freelances ?
Moi, ce que je vois dans les entreprises, c'est qu'il y a, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une règle hyper facile là-dessus parce qu'en fait, on voit des projets longs, des projets courts. On voit des personnes effectivement qui lancent des initiatives ou au contraire, c'est des personnes qui vont bosser sur des projets déjà existants, sur de l'amélioration. On va retrouver, comme tu l'as dit, des besoins, ce que tu appelles ponctuels. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui va bosser sur du SEO chez toi, oui, peut-être qu'à 100% chez toi, si tu n'as pas décidé que c'était une priorité fondamentale, ce serait peut-être en trop. Par contre, avoir quand même quelqu'un qui fait des petits checks une fois par mois, ouais, ça c'est bien. Alors déjà, ça va dépendre des métiers, ça va dépendre de la stratégie de la boîte, ça va dépendre de plein de choses. Je suis pas convaincu qu'il y ait une règle qui se dégage facilement. Hormis, si, bien sûr, ce que tu disais, les bons heures ponctuels, par exemple, et l'expertise. Par contre, après, projet long, projet court, etc., à la limite, ça, c'est vraiment à l'appréciation de la boîte. Oui, sur tu parlais de la variabilisation, enfin, de la souplesse pour être capable un petit peu de faire face à des besoins à un instant T. Voilà, je sais que j'ai une augmentation, etc. Oui, d'ailleurs, ça se pratique dans plein d'autres métiers. Hein. Enfin, on parle de saisonnier dans certaines activités.
Oui, c'est ça, exactement la même méthode qu'avec les saisonniers.
Ouais. Ça, totalement, ouais. Ça, oui.
Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de boîtes qui faisaient appel à du freelance à peu près à 20% de leur effectif. Ben évidemment, avec la crise du Covid, la première chose qu'ils ont fait, c'est couper. Ils ont coupé les contrats de freelance pour se concentrer sur leur cœur de métier parce qu'ils n'avaient plus l'activité client en face. Ce n'était pas pour dire on laisse tomber les freelances. C'est juste dire, ben en fait, si on veut que la boîte survive, on doit couper les contrats de freelance et c'était fait pour ça. Le deuxième point, c'est dans quel cas tu ne fais pas appel à des freelances ou il vaut mieux te dire que tu restes en interne. Alors, moi, j'avais cette idée que si tu as besoin d'un profil qui va être là 100% du temps, c'est-à-dire que tu n'es pas en mode je lance un projet qui va s'arrêter, mais tu es dans un besoin où tu n'as pas de visibilité sur un arrêt et c'est un profil chargé 100% du temps. À mon sens, compte tenu du fait qu'il va se former, qu'il va y avoir de l'expérience, etc., ça a plus de sens de faire une embauche que d'aller sur un freelance. Sauf dans le cas où effectivement c'est des profils que tu auras du mal à trouver autrement qu'en freelancing. Pareil pour la présence dans l'entreprise. Alors tu disais, tous les freelances ne sont pas forcément en remote. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'un freelance que tu vas avoir besoin à 100% du temps pendant plusieurs années, ce ne soit pas un intérêt de l'avoir plutôt en salarié. Ne serait-ce que pour la question légale qui est, tu ne peux pas avoir un freelance à 100% du temps.
Ah, alors tiens, on va parler du légal. Donc, pour la petite anecdote, nous, on a eu des personnes qui sont restées en freelance. Il y en a un, il est arrivé en 2015. Il vient de partir, en l'occurrence, parce qu'il a envie de se lancer dans une autre aventure. Mais voilà, il était là depuis 5 ans. On a eu des personnes comme notre responsable, enfin, head of data, donc chez nous, qui était freelance. Donc, si tu veux, moi j'ai toujours considéré que c'était un peu, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, un détail d'implémentation. Mmh. En soi, je vois pas de chose qui fait que tu peux pas rester, avoir quelqu'un qui est pendant très longtemps en freelance. Je me rappelle d'un éditeur logiciel chez qui j'étais, c'était entre 2006 et 2010. Et la personne qui a fait vraiment le cœur du moteur du logiciel, je vais peut-être pas donner trop de détails, voilà. La personne qui a bossé vraiment là-dessus pendant très longtemps, c'était un freelance. En fait, est-ce qu'on peut considérer que c'était un freelance ? Lui, il se considérait comme faisant partie de la boîte, si tu veux. Il avait une structure à part, etc. etc. Et d'ailleurs, si tu regardes, il y a énormément de personnes qui bossent sur les comités de direction dans les grandes entreprises, qui bossent sous forme de consultants externes, etc. Donc,
Oui, mais pour le coup, là, y a une question, la question légale, c'est sous quel statut tu es. Si tu es en consultant externe, mais que derrière, tu as ta propre SAS ou ta propre SARL ou ce que tu veux, il n'y a pas de problème, tu peux bosser 100% du temps pour l'autre boîte. Si tu es en auto-entreprise, là, c'est un autre problème parce qu'il y a une jurisprudence sur le salariat déguisé et ton freelance peut demander, s'il reste plus, je crois, c'est plus, ça doit être 18 mois, quelque chose comme ça, à faire partie des effectifs, à être salarié. Et c'est là où, pour les entreprises, il y a quand même un vrai point de vigilance. Et d'ailleurs, dans les contrats aujourd'hui, tous tes services légaux vont te dire de rajouter une phrase qui dit que tu n'es pas en dépendance économique vis-à-vis de l'entreprise, que tu es libre de faire appel à d'autres clients, etc. Parce qu'il faut se protéger de ça. Et il y a un vrai point là-dessus.
Ouais, alors justement, parlons un peu de tout ça. Donc il y a plusieurs sujets. Il y a le prêt de main-d'œuvre, c'est le fait de prêter un salarié à une autre entreprise, il est encadré en France. Ça se fait normalement via des sociétés de partage ou des sociétés intérim. Quand t'es freelance, t'es pas salarié. Donc de toute façon, il n'y a pas cette notion de prêt de main-d'œuvre. Ça ne peut pas exister.
Ouais.
Ensuite, il y a effectivement le fait de dire je suis en dépendance économique vis-à-vis de l'entreprise. Qui, dans le cadre par exemple de. Alors, on va parler des exemples où ça fonctionne. Imagine que tu as un gros équipementier automobile qui fait travailler une entreprise qui lui fait des composants et 100% de son chiffre vient de cet équipementier automobile. Le jour où cet équipementier décide d'interrompre son activité ou ce modèle-là en particulier, etc., la petite entreprise peut dire en fait, nous. On était une filiale, entre guillemets, cachée. On peut faire prévaloir la dépendance économique et donc faire réintégrer toutes les personnes dans cette entreprise-là. Et du coup, éventuellement, s'il y a un vrai problème, parler d'un plan social. Pour un freelance, on est un peu dans autre chose. C'est-à-dire que dire « je fais 100% de mon chiffre avec une entreprise » quand on fait 3 ans de suite avec une boîte, évidemment que c'est le cas. Par contre, on n'est pas du tout dans un cas où on ne pourrait pas bosser par ailleurs. Et ça, on peut le démontrer par plein de choses. Tu t'es parlé d'ailleurs du marché pénurique. Il existe, par exemple, une entreprise comme nous, comme Malte. Nous, on a l'ensemble de toutes les consultations de profil, on a l'ensemble de toutes les demandes de missions qui se sont faites par la plateforme. Donc, on sait dire que sur tel marché, c'est pas du tout, enfin, c'est pénurique, il y a plein d'emplois, etc., etc. Donc, ça, de toute façon, ça ne serait qu'un faisceau de preuves, mais il ne serait pas suffisant vis-à-vis du marché.
Ouais. Après, quand tu es freelance, est-ce que c'est pas un peu dangereux de faire 100% de ton activité pour un client et justement de ne pas varier ton portefeuille?
Je dirais que si tu es plutôt habitué aux missions longues, non, ce n'est pas dangereux. Si par contre...
Quand tu es dans un métier en tension, parce que si tu es dans un métier qui n'est pas en tension, pour le coup, d'un point de vue business, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire.
Oui, tu veux dire de changer alors que tu as des risques de passer beaucoup de temps en prospection commerciale.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que tu es à 100%, puis j'ai envie de dire tu vas finir par t'endormir sur un client avec qui tu es à 100%, tu vas y rester 2-3 ans, puis du jour au lendemain... Pour toutes les raisons qui arrivent dans les entreprises, le client te dit on va arrêter de travailler ensemble. Ben là, tu te retrouves dans une situation où tu dois reprendre la prospection et c'est compliqué. Et c'est là que je te dis qu'il y a eu de la jurisprudence, c'est que tu as des freelances qui sont dans ce cas-là, qui se sont retournés en disant c'est du salariat déguisé et donc qui ont eu gain de cause.
Je vais te donner une anecdote quand même vis-à-vis de ça juste après. Mais donc pour répondre à ta question, en fait, c'est plus un choix de carrière. Enfin, c'est plus un choix professionnel de où est-ce que je capitalise. Est-ce que je considère que les challenges que j'ai à un endroit donné, bien sûr que j'apporte de la valeur à une entreprise, c'est ça que je facture. Mais j'apprends aussi des choses. Et donc, est-ce que ce que j'apprends, c'est quelque chose sur lequel je pourrais capitaliser pour une éventuelle future mission? Enfin, c'est même pas une éventuelle, il y en aura une. Donc, est-ce que je vais pouvoir capitaliser dessus? Oui, non. Si c'est oui, dans ce cas, parce qu'il y a constamment des nouveautés, parce qu'il y a un cadre de travail qui est particulier, je sais pas, par exemple, site à fort trafic, etc. Bon, dans ce cas, mon pari peut-être sera de dire je vais rester. À l'inverse, si j'apprends rien, si je suis sur des technos qui sont vieillissantes et donc qui ne seront plus sur le marché à un moment quand je vais ressortir, etc., là, mon choix sera de dire non. Mais je ne le vois pas sur l'angle de, ma dépendance économique vis-à-vis de la boîte et de ce genre de sujet. Je le vois vraiment sur effectivement la valorisation de ce que je vais pouvoir apporter par la suite sur mon parcours. Et pour la petite anecdote, tu disais des fois un freelance il peut demander à être qualifié en salarié. Alors c'est arrivé pour des salariés qui étaient en ESN et qui ont dit en fait moi je veux faire partie de la boîte machin parce que ça fait X temps que j'y suis. Et en soi, on le comprend très bien, c'est-à-dire que le niveau de salaire de cette personne était effectivement inférieur à ce qu'elle aurait pu prétendre chez le client final. Et puis, il y avait aussi tous les avantages de ces grosses boîtes qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux que tu peux avoir en ESN. Et dans ce cas-là, le calcul pour la personne en ESN, effectivement, il est assez vite fait. Ce n'est pas du tout vrai en freelance. Et moi, je me rappelle très bien d'une discussion que j'ai eue quand j'étais en freelance avec certains de mes clients. Enfin, il y a eu un client en particulier qui m'a dit plusieurs fois « Est-ce que tu ne voudrais pas rester ? Est-ce que tu ne voudrais pas que je puisse t'embaucher ?» Je lui dis « Écoute, ok, mais par contre, tu as tel salaire. » Et effectivement, je demandais un salaire qui était plus important parce que ça correspondait au revenu que je faisais en tant que freelance.
Oui, parce qu'après, il y a toujours l'histoire des charges. C'est-à-dire que quand tu es en freelance, tu es jeune, tu es en bonne santé, etc. Donc c'est aussi un choix.
Quand tu es freelance, en fait, tu peux moduler tes revenus.
Tes charges aussi. Tu peux moduler tes charges.
Oui, alors quand je dis moduler tes revenus, quand je dis c'est les revenus que tu perçois, tu peux les moduler en fonction de certains choix. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez chiant, mais oui, il y a plein de choses que tu peux faire en fonction de ce que tu mets en dividende, pas dividende, machin, etc. En fonction de différents types de protections que tu peux te mettre ou pas, même si aujourd'hui j'aurais quand même tendance à conseiller à tous les freelances de faire très attention à ce genre de choses, par exemple prévoyance, etc. Il faut en prendre. Et puis il y a aussi la gestion des frais. La gestion des frais, c'est quelque chose qui va te permettre aussi de financer ton ordinateur, etc. Et ça, ce n'est pas négligeable du tout. Donc en fait, tout confondu, à la fin, tu gagnes quand même très bien en freelance. Tu n'as aucun intérêt à revenir en salarié pour un salaire inférieur. Donc le nombre de freelances qui décident d'intégrer d'entreprise, qui vont se plaindre là-dessus, il est quand même, pas le chiffre malheureusement, mais il est vraiment négligeable.
Okay. On a bien entamé en fait la partie des bonnes pratiques. Quelles bonnes pratiques quand on a une entreprise adoptée pour bien travailler avec ses free? Il y en a une deuxième que moi j'avais à l'esprit, c'était le cadre de la mission. J'ai trop vu de relations qui se faisaient en mode « j'ai ce besoin-là, fais-moi un devis ». Puis en face, il y avait un devis qui arrivait. Alors, il n'y avait pas de mention légale, il n'y avait pas de condition générale de vente, il n'y avait pas de cadre très précis sur ce qu'il y avait à faire. En général, quand on est dans cette relation-là, on a toutes les chances que ça parte un petit peu en sucette derrière parce qu'on a mal défini les choses. Alors, c'est valable pour les missions courtes, c'est encore plus grave sur les missions longues parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un modus operandi, une méthodologie de travail, des procédures, des choses comme ça qu'il faut partager pour que tout le monde soit aligné. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates, toi, de ton côté, cette question du cadre?
Alors déjà, en fait, ça, c'est un peu justement l'un des gros intérêts de passer par une plateforme, c'est qu'il y a tout un ensemble de choses sur l'égalité. Là, je parle du cadre légal, je ne parle pas du cadre opérationnel de la mission. Ouais. Mais il y a tout un ensemble de choses qui sont vérifiées par les plateformes. Alors, typiquement, le fait de dire que les factures émises elles sont valides, qu'elles comportent toutes les mentions obligatoires, etc. Oui, évidemment, ça, c'est le boulot de la plateforme. Le fait de vérifier aussi les documents. Est-ce que l'entreprise existe? Est-ce qu'il y a un CABIS? Est-ce que la personne est à jour est-ce que l'entreprise est à jour de ses obligations sociales, etc. Tout ça, pareil, c'est vérifié. Il y a aussi des vérifications qui sont faites par les organismes bancaires sur lesquels on s'appuie pour faire du paiement. Donc, par exemple, sur tout ce qui est... Alors, il y a des obligations européennes qui s'appellent Know Your Customer pour vérifier en fait, que on n'est pas en train d'être dans des opérations de blanchiment d'argent, etc. Donc, tout ça, en fait, c'est un cadre sur lequel, effectivement, on n'a pas envie de passer du temps. Et heureusement, il y a des plateformes qui permettent de s'éviter ça. Après, il y a le cadre opérationnel. Et en termes de pratique, ça va vachement dépendre du type de relation qu'on va chercher à avoir. Est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un qui va faire, comme je disais tout à l'heure, de l'audit sur du SEO avec une intervention ponctuelle tous les X temps? Auquel cas, moi, j'aurais tendance à conseiller quand même de définir un peu des livrables. J'aurais tendance à préciser vraiment les objectifs clair et précis sur ce que j'attends sur ces jours d'intervention. Est-ce que c'est par contre quelqu'un que j'inclus dans mes équipes et avec lequel en fait il va se conformer, je dirais, à la méthodologie de travail imposée par le reste de l'équipe? Là, pour le coup, je vais essentiellement dire non, c'est quelqu'un qui est entre guillemets au tour passé. Je vais préciser bien sûr un cadre, mais il sera beaucoup moins strictement défini que dans le premier cas.
Ce que je faisais sur la question du cadre en agence de mon côté, étant donné qu'en agence, on a souvent des contrats qui sont forfaits avec les clients, il fallait, quand on faisait appel à des freelances, définir un cadre qui était très clair sur les livrables, que ce soit en termes de délai, que ce soit en termes de qualité, qui étaient faits par les freelances, de manière à ce qu'on ne se trouve pas dans une situation où il y a un déphasage entre ce qu'on a vendu au client et la façon dont on va travailler avec le freelance. Parce que ça peut amener à des tensions. Alors, on en discutait tout à l'heure avant d'entamer l'enregistrement, qui sont j'ai vendu quelque chose au forfait, je travaille en régie. Je peux me permettre de travailler en régie, mais par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on soit très clair sur ce qui est attendu en termes méthodologiques, en termes de délai, en termes de livrables. Parce que sinon, derrière, on a toutes les chances de se retrouver dans une situation où on est en tension avec son propre client et ça rejaillit sur le freelance. Donc ça, c'est pas une bonne façon de faire.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que ex-free et aujourd'hui parlant à un free, je lui dirais quand même, évite fortement effectivement les forfaits, pour plein de raisons. Parce qu'en fait, tu t'engages dans un truc qui est compliqué à définir, qui est compliqué aussi parce qu'il y a des choses auxquelles tu n'as peut-être pas l'habitude de faire face, par exemple les pertes de garantie. Pendant combien de temps tu t'acceptes ce genre de choses-là, enfin les allers-retours pour tel ou tel sujet. Et il y a des métiers pour lesquels c'est encore plus compliqué parce que c'est, il y a une notion un peu de subjectivité. Par exemple, le web designer, combien d'allers-retours t'acceptes? Ça, normalement, il faut que tu le bordes. Quoi. Si tu sais pas le border, tu vas te faire bouffer pendant très longtemps.
Parce que ça, c'est le métier des agences. C'est ce qu'ont fait les agences pendant des dizaines d'années et qu'elles savent très bien faire. Ouais.
Donc il y a des métiers sur lesquels ils sont plus familiers avec ça. Justement, le web designer est beaucoup plus familier avec ce qu'il faut pas faire. Pour le développeur qui a tendance à se dire, tiens, je ferais bien un forfait. Là, je lui dis, non, fais vraiment très, très attention. Ou alors, mettons en mode stop ou encore, donc c'est les fameux contrats agiles, ça va quand même être de la facturation au temps passé. Par contre, il n'y a pas vraiment de période de préavis. C'est-à-dire qu'en gros, si au bout d'une itération, vous définissez ensemble que bah, ça ne vaut pas le coup, ça n'a pas le potentiel intéressant pour aller chez un client, etc., dans ce cas, vous interrompez la prestation. Et voilà.
Mais au moins, les choses sont claires dès le départ. Avec le client. Et le dernier point que j'avais à l'esprit, on en avait noté d'autres, mais il y en a un qui pour moi est important, qui est de dire que pour une entreprise, elle doit vraiment considérer que la relation avec le freelance est une relation de partenariat avec un professionnel. Ce n'est pas la même relation que celle qu'il va avoir avec son salarié. Et c'est souvent un petit peu un biais, c'est-à-dire qu'on va en prendre des freelances et on va essayer de les manager, on va essayer de travailler avec eux comme si c'était des salariés, ce qui n'est pas le cas. Et donc, en tant que professionnel, le freelance, il doit agir comme un professionnel. Ce qui n'empêche pas derrière de l'inclure dans tout ce qui va être la culture de l'entreprise, les événements off, les choses comme ça, parce que ça permet de créer du lien dans l'équipe et il n'y a pas de raison de dire « Ah ben, il n'est pas salarié, donc il vient pas avec nous ». Au contraire, si on crée une dynamique d'équipe, on l'inclut. Et par contre, dans la relation de tous les jours, c'est important de garder ce petit détail.
Ouais, compliqué. En fait, moi, il y a une phrase qui m'est venue à l'esprit quand tu as commencé. Je sais plus qui disait ça. J'ai peur de dire une connerie. Je crois que c'est Steve Jobs, mais je suis pas sûr de moi, qui disait, en gros, ça sert à rien de prendre des gens très intelligents si c'est pour leur dire quoi faire.
Oui, c'est Jobs qui disait ça. En fait, il embauchait les gens. Il leur dit, vous venez pas chez nous pour qu'on vous dise ce qu'il y a à faire. Vous venez chez nous pour nous dire ce qu'on va faire.
Ouais, et du coup, en fait, que ce soit freelance ou salarié, j'ai envie de dire que j'aurais tendance à appliquer la même maxime, en fait. Oui, bien sûr, la relation de travail avec le freelance, tu dois comprendre un petit peu quels sont les moteurs de cette personne. C'est un professionnel qui apporte une certaine expertise, qui a aussi d'autres préoccupations, puisqu'il doit gérer sa boîte, donc il va quand même, comme je disais tout à l'heure, vérifier en fait que la mission actuelle sur laquelle il est, elle va déboucher sur quelque chose. Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle a du sens, etc.? Parce qu'en fait, plus tu mets en danger son employabilité future, plus la personne va se dire bah non, j'ai pas d'intérêt à rester là. Bon, en soi, j'ai envie de dire que le salarié, il devrait se poser aussi les mêmes questions. Mais non, après, sur le quotidien, j'avoue que je faisais pas de différence. Et quand j'étais freelance et que j'étais en mission chez des clients, moi, mon objectif, c'était au contraire de pouvoir être vu comme un salarié. J'ai vu des entreprises où c'était un peu particulier parce qu'en fait, ils mettaient les prestataires dans une autre tour.
Oui, ça, j'ai vu ça aussi. Moi, j'ai vécu ça.
Où t'avais d'autres petits points comme ça qui faisaient que tu te sentais pas dans la boîte. C'est-à-dire que t'étais pas effectivement là sur les meetings de démarrage de projet, t'étais pas là sur certains. Et ce qui fait que tu perdais totalement ton sens vis-à-vis de la mission de l'entreprise.
Ouais, mais ça, pour le coup. Tout ce qui est lié au projet, c'est la même équipe. Donc là, il n'y a aucune différence à faire. Pourquoi je disais ça? C'était sur la question du management, principalement du management humain, donc pas management de projet, mais management humain, où j'ai souvent vu des managers qui agissaient avec les freelances comme si c'était des salariés, c'est-à-dire qui vraiment prenaient un ascendant vertical. Et là, pour le coup, ça ne peut pas marcher dans ce cas-là. Le freelance a choisi le métier de freelance justement pour ne pas tomber là-dedans, en partie pour ne pas tomber là-dedans. Et c'est là où il y a quand même une vraie nuance, c'est que la personne, elle a contractualisé un contrat de professionnel avec l'entreprise. Elle a des objectifs vis-à-vis de ça, elle doit agir comme un professionnel, donc elle n'a pas à être managée humainement. Elle est censée s'auto-manager là-dessus.
Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, je vais encore faire une réponse de Normand, j'ai l'impression. Oui, bah, par exemple, si la personne te dit je peux pas être là demain, ou j'ai des obligations X ou Y, effectivement, il y a ce qu'on appelle le lien de subordination. Toi, en tant que manager, t'es pas censé vérifier ce genre de choses-là, c'est une relation professionnelle. Bon, ça n'empêche pas que dans une relation professionnelle, il y a quand même un peu, certaines bonnes pratiques, comme le fait de prévenir, comme le fait. Donc c'est pour ça que. Et même, t'es pas censé le manager, par exemple, pour son évolution de carrière, parce que effectivement, c'est pas ton job. Pour autant, le management entre guillemets traditionnel de savoir un petit peu comment va le moral des personnes et en gros vérifier que la personne est alignée avec la mission ça se fait quand même. Donc c'est pour ça que je dis ça réponse de moment parce qu'en fait il y a des éléments du management traditionnel que j'aurais quand même tendance à.
Là on est plus dans la dynamique d'équipe.
Oui, tout à fait.
Tu vois c'est là où tu as raison de le souligner, c'est que parfois cette frontière est un petit peu fine. Et c'est compliqué pour le manager de savoir où est-ce qu'il peut se positionner, où est-ce qu'il ne peut pas se positionner. Et là, il y a un vrai travail à avoir de leur côté. Déjà, à connaître, à mon avis, c'est une relation individuelle. C'est-à-dire qu'avec chaque personne, qu'il soit salarié ou qu'il soit freelance, c'est quelle relation j'ai avec cette personne. De bien connaître le cadre légal quand même qui entoure les choses. En tant que manager, il doit connaître ce cadre-là. Et derrière, de savoir s'adapter. Un manager, c'est quelqu'un qui doit savoir s'adapter. Il doit savoir s'adapter à ce type de... il doit adapter sa relation à la personne qui est en face.
Oui. Oui, d'ailleurs, tu as raison. L'élément central pour la personne qui se poserait des questions, c'est de dire, je ne dois pas avoir des liens de subordination avec la personne. En dehors de ça, il fait partie de mon équipe et je veux que ça fonctionne. Donc, je dirais que tous les éléments d'équipe, tous les éléments de dynamisme, etc., j'ai le droit de le faire. Mais c'est les liens de subordination que je ne peux pas.
Ok. Hugo, on a passé beaucoup plus de temps que prévu. On arrive au bout de l'épisode. Est-ce que déjà, tu as une phrase pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui ?
Globalement, oui, il y a un changement assez important aujourd'hui, je dirais, du monde du travail. On a des individus aujourd'hui qui cherchent beaucoup de choses. On parle de sens, mais je me demande si c'est pas un peu galvaudé comme terme, parce qu'en réalité, ils cherchent de l'autonomie, ils cherchent de la visibilité sur leur évolution de carrière, ils cherchent de pouvoir être un peu plus... d'être un peu plus libre sur leurs choix. Je te dis de pas forcément avoir de contraintes sur, par exemple, tiens, je veux faire une formation, je veux aller à telle conférence, et on m'a dit non, parce que non, en fait, je suis pas un enfant, j'ai envie de pouvoir faire ça. Donc il y a, d'un côté, je pense que cette prise de conscience, elle s'accentue d'année en année. De l'autre, on a des entreprises qui sont dans des secteurs qui bougent extrêmement vite. Donc là, aujourd'hui, on est quand même face à un moment où, et on le voit en plus, là, on l'a vu, ça s'est vraiment accentué avec la crise du Covid, on est à un endroit où les entreprises, elles peuvent pas se permettre d'être lentes. Parce que le marché, il est tel qu'il est, il bouge très vite, et notamment avec... cette dématérialisation globale de un peu tous les services. Donc, si on prend un peu tout ça, je dirais qu'il va falloir, pour celles qui n'ont pas encore saisi le cap, qu'elles le saisissent vite, parce que les gens qui seront suiveurs dans quelques années, ils risquent d'avoir de grosses mauvaises surprises.
Ouais, on est assez d'accord, la transformation, là, elle doit être engagée. Et alors, j'ai la question que je pose à la fin de tous les épisodes. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais transformer quoi que ce soit, qu'est-ce que tu en ferais ?
Tu vois, j'ai écrit toute une série d'articles là, il n'y a pas très longtemps sur l'économie des techs la grosse difficulté en fait, à avoir hébergé des champions européens parce que le marché européen est très fragmenté, parce qu'il y a une différence, il y a des gros soucis d'harmonisation sur plein de sujets en fait en Europe. Ce qui fait qu'en fait on a un gros marché, hein, mais ça se ressent pas dans les faits parce qu'en fait chaque marché il faut le conquérir un par un, etc. Et du coup on a des soucis de souveraineté sur plein de trucs. Et ça, si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien réussir à faire en sorte que ça s'améliore. Alors soit qu'il y ait une certaine, je dirais, uniformisation au niveau de l'Europe, une certaine compréhension de l'identité européenne. Attention, je veux pas rentrer dans la politique et dire il faudrait faire l'Europe comme ça. Voilà, c'est pas ça. Ma baguette magique, elle est un peu plus magique que ça, tu vois. J'ai envie de m'élever un peu au-dessus de tout ça. Mais je pense que, en fait, tous les sujets de société sur lesquels on discute régulièrement, tu vois, tous les sujets de société sur lesquels on se dit ça c'est important, ce sont mes valeurs, etc. Bah, je pense qu'on aura plus de facilité à les ériger comme modèle, si tant est qu'on soit un peu plus nombreux, tu vois, et un peu plus fort économiquement pour le faire. C'est pas un pays de 70 millions d'habitants, avec des champions par état, tu vois, qui ont un peu du mal à émerger partout, qu'on va pouvoir dire, bah, c'est comme ça que, par exemple, on va discuter de la protection des données ou de l'éthique vis-à-vis de l'IA, etc. Bah, en fait, non, les États qui vont en parler, c'est ceux qui ont les plus grosses économies. Donc je pense qu'aujourd'hui, ouais, j'aurais tendance à focaliser là-dessus.
Tu prônes le fait d'avoir une vision plus fédérale de l'Europe. Un petit peu...
Ouais, c'est vrai, ouais.
Alors, on arrive au bout. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver ? Alors, évidemment, il y a Malte, j'imagine, mais à côté de ça.
J'ai un blog qui s'appelle eventuallycoding.com. Sinon, un petit peu sur Twitter, mais je suis de moins en moins, parce que j'apprécie de moins en moins l'ambiance délétère qui y est.
Ça devient compliqué, ouais.
Ouais, mais sinon, voilà. Et même mon blog, pour être honnête, je fais un article tous les 6 mois, donc ça commence à devenir moins plus léger.
Et je mettrai le lien dans la description du podcast. De notre côté, on peut se retrouver évidemment sur LinkedIn, un petit peu Twitter, mais effectivement, c'est peut-être pas le meilleur média en ce moment. Ce qui est important, c'est de mettre des commentaires et des étoiles dans iTunes. J'aime beaucoup les étoiles pour qu'on puisse parler de ce podcast, qu'il soit visible et que ça me donne envie de continuer. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager aussi autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci Hugo d'avoir participé.
Merci à toi également.
Et puis on se retrouve dans 15 jours. Salut.
Salut.